de santé 88.4. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Enjeux de santé pour l'année 2012. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée à la contraception des jeunes de moins de 25 ans. Pour en parler, j'ai rencontré Yael Amselem-Mangui, chargée de recherche jeunes et santé à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP. Cette interview a été réalisée lors de la Biennale de l'égalité à Saint-Malo, le 9 décembre dernier. Pour commencer, j'ai demandé à Yael de nous présenter l'objet d'étude de sa thèse.
J'ai travaillé pendant 4 ans sur une thèse en sociologie qui porte sur les pratiques contraceptives des jeunes femmes et plus particulièrement sur la contraception d'urgence. L'idée était de comprendre à quelle occasion on utilise la contraception d'urgence, comment ça se passe avec les partenaires et est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la reprend et du coup comprendre plus largement comment se construit la biographie, ce qu'on va appeler la biographie contraceptive d'une femme et en l'occurrence des jeunes femmes. Comment ça se met en place, comment ça s'installe et quels sont les freins à l'utilisation de la contraception d'urgence, quelles sont les représentations, les normes qui vont avoir lieu.
Pour ce faire, c'est une thèse que tu as fait au niveau national, des recherches au niveau national, auprès de quels jeunes, qui étaient ces jeunes au final, combien de personnes as-tu interrogé?
Alors j'ai fait une recherche qualitative, donc par entretien, forcément c'est limité en termes d'échantillons. Au total, pour la thèse, j'ai utilisé 64 entretiens que j'ai menés auprès de jeunes femmes âgées en gros de moins de 25 ans, donc la plus jeune, elle avait 14 ans et demi, vivant en France métropolitaine. Néanmoins, j'ai interrogé un peu plus de jeunes femmes que ça au total, j'en étais à 80 à la fin. À cela s'ajoute une enquête quantitative qui a été faite par Nathalie Bajos et Michel Ferrand sur la sociologie de la contraception et des grossesses non prévues. Et du coup, ce que je vois à l'échelle qualitative se retrouve dans les données quantitatives, donc ça m'assurait de ne pas avoir un échantillon très particulier de population. L'avantage du qualitatif, c'est que ça permet de comprendre des chiffres et après des entretiens qui durent entre 2 et 3 heures, on peut comprendre vraiment les comportements sociaux.
Et alors justement, quel état de la contraception pour les moins de 25 ans aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu as pu observer auprès de ces jeunes femmes?
Ce que croisent toutes les enquêtes, hein, celles que j'ai faites comme toutes les autres, c'est que d'un point de vue contraceptif, en France, il y a une norme contraceptive hyper forte et hyper prégnante qui va du coup induire des comportements spécifiques tant de la part des jeunes que des professionnels, que des autres personnes qui vont être dans le maillage d'informations. Donc cette norme de la contraception, c'est le préservatif pour le début de la relation, puis l'usage de la pilule dès que la relation se stabilise, et enfin un stérilet quand le nombre d'enfants souhaités est atteint. En gros, après le premier enfant, une femme peut décider de prendre un stérilet. Si elle veut un stérilet avant d'avoir eu son premier enfant, le médecin va essayer de mettre des freins en disant que c'est pas maintenant, tout ça. Et puis là-dessus, il y a toutes les représentations du stérilet qui rendraient stérile. N'empêche que du coup, cette norme, elle va impliquer des pratiques contraceptives et va renfermer finalement l'usage de la contraception dans l'usage de la pilule. Puisqu'en gros, ce qu'on voit bien, c'est qu'au moment de la première consultation médicale pour la contraception, les jeunes femmes vont arriver chez le médecin ou chez le gynéco en disant « bonjour, je voudrais la pilule ». Et donc le médecin va dire « ok, je te prescris la pilule ». Alors que finalement, ce qu'elles veulent, c'est pas la pilule, c'est une méthode de contraception. En France, il y a environ 13 méthodes de contraception sur le marché. Il n'y a pas que la pilule et pourtant, ça reste la pilule, la méthode la plus utilisée, la plus prescrite. Pourtant, on sait bien qu'elle ne correspond pas à l'usage à toutes les jeunes femmes et que des fois, ça vaudrait le coup de proposer une méthode secondaire, enfin une autre méthode aux jeunes femmes pour qui c'est difficile de prendre un comprimé ou pour qui penser tous les jours à un produit, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a quand même un relatif haut taux d'échec à l'usage de la contraception orale dans la population générale. Donc c'est bien que c'est difficile de la prendre de manière quotidienne. Et donc du coup, cette norme, si tant qu'on ne la déconstruira pas, on enfermera finalement la contraception dans une seule vision de la sexualité et de la contraception. Ce qu'on voit de toute façon globalement, si ça peut rassurer tout le monde, c'est qu'au moment des premiers rapports, les premiers rapports sont toujours autant protégés. quelles que soient là, les générations récentes, on voit bien que le préservatif est présent au moment du premier rapport et que contrairement à ce qu'on aimerait penser, finalement, ce n'est pas les adolescents les plus précoces, c'est-à-dire ceux qui ont des premiers rapports sexuels avant l'âge stratégique et normal, on va dire, lié à la norme de l'âge médian au premier rapport, donc qui est autour de 17 ans, ceux qui ont des rapports avant 16 ans, vers 15-14 ans, finalement, ils se protègent autant, voire plus que les autres, contrairement à ceux qui vont avoir des rapports sexuels tardifs. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à entendre et à prendre en considération, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir un premier rapport tôt qu'on fait n'importe quoi et qu'on sait pas ce qu'on fait.
On retrouve Yael Amselem Mangui après une pause musicale avec Julian Dean, en featuring avec Marat Kay et le titre « Sofar ». De retour dans Enjeux de santé avec Yael Amselem Mangui, je lui ai demandé pourquoi le terme « pilule du lendemain » n'était plus adapté selon elle.
Alors, à force d'avoir écouté des jeunes femmes pendant des heures et des heures et des heures, je me suis rendu compte effectivement que l'expression « pilule du lendemain », elle correspond à une certaine vision adulte de la sexualité. En vrai, il faudrait remettre en question le mot « pilule » et le mot « lendemain ». À savoir, le mot pilule, finalement, il correspond et à la pilule quotidienne et à la pilule abortive. Et du coup, elle sème la confusion dans la compréhension de à quoi sert finalement cette contraception d'urgence. Et du coup, elle va semer le doute de savoir finalement, est-ce que la contraception d'urgence, ça serait pas un mini-avortement comme la RU486. Effectivement, c'est un comprimé, mais tous les comprimés, on les appelle pas pilules, donc il n'y a pas de raison que celle-là, on l'appelle pilule plus que d'autres comprimés. Ensuite, pourquoi contraception d'urgence, c'est plus adapté? C'est parce que finalement, d'abord, il y a une ambiguïté sur l'heure, c'est-à-dire que le lendemain, ça implique 24 heures. Or, une partie des jeunes femmes que j'ai interrogées, les plus jeunes et les plus précaires, on voit bien qu'elles n'ont pas forcément le réflexe d'aller à la pharmacie dès les 24 heures. Et donc après, elles se disent que c'est trop tard et ne vont pas retourner à la pharmacie au-delà de 24 heures, alors que le nom indiquait 24 heures potentielles. Ou que le dimanche, c'est fermé, donc on se dit que le lundi, ça ne sera pas possible. Et d'autre part, ça correspond à une certaine vision très adulte normative de la sexualité, c'est-à-dire que si les adultes ont des relations sexuelles le soir après le boulot et du coup auraient besoin de la contraception d'urgence le lendemain au petit réveil, les jeunes, eux, ont bien souvent des rapports sexuels quand leurs parents ne sont pas là, à savoir à l'après-midi, et que du coup la contraception d'urgence, il n'y a pas de raison d'en avoir besoin le lendemain. C'est-à-dire qu'en soi, ils pourraient en avoir besoin dans l'après-midi même ou dans la soirée, à n'importe quel moment de la journée. Et aussi parce que le produit évolue, que quand moi j'ai fait mon doctorat, le produit était disponible en pharmacie et le produit qui était délivré, c'était une contraception d'urgence qui durait 3 jours, enfin, qu'on décidait et qu'on donnait comme valable 3 jours. Que maintenant, il y a une nouvelle contraception d'urgence qui est sur ordonnance uniquement et qui va jusqu'à 5 jours de prescription. Et que du coup, en donnant des dates de lendemain, on ne se permet pas de voir évoluer les produits. Pourtant, on voit très bien que dans d'autres pays, la Norlevo, pour ne pas la citer, qui est en France prescrite jusqu'à 3 jours, est utilisée jusqu'à 5 jours et peut très bien être utilisée dans les 5 jours. Donc finalement, ce lendemain, moi, il me questionne beaucoup et il questionne énormément. Quand on a entendu des jeunes femmes, on se dit « mais en fait, finalement, il faut qu'on arrête de l'appeler pilule le lendemain parce qu'on sème la confusion et que contraception d'urgence, ça correspond potentiellement un peu mieux aux usages et à la réalité du produit. » C'est peut-être pas l'expression la mieux. S'il y en a qui ont des meilleures idées, je les prends. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux et plus adapté par rapport à ce qu'il y a, ce qui circule en ce moment.
Je voulais revenir à ton domaine de prédilection, la sociologie. Parler un petit peu ensemble de normes et de représentations de la sexualité en ce qui concerne les jeunes.
Ce qu'on voit, c'est que on est quand même très emprunt des rapports sociaux de sexe pour les jeunes et les moins jeunes. Il n'y a pas de raison que ça soit que les jeunes. Moi, j'étudie la population jeune, mais quand on étudie la population générale, on le voit bien. À savoir que tout d'abord, en termes de sexualité, dans les discours des femmes et dans les discours des hommes, on retrouve l'idée que les femmes auraient des relations sexuelles parce qu'elles ont envie, parce que c'est sentimentalement intéressant, parce qu'elles sont amoureuses, parce qu'elles ont des émotions, parce qu'elles sont fleurs bleues, et que les garçons, eux, auraient des rapports sexuels parce qu'ils en ont besoin physiquement, parce que c'est des pulsions naturelles qu'il faut qu'ils assouvissent. N'empêche qu'à partir du moment où on a ces représentations qui continuent d'être véhiculées de génération en génération, on implique une certaine vision de la sexualité où la femme peut difficilement refuser les rapports sexuels parce que son mec en a besoin, son partenaire en a besoin. Et inversement, un garçon peut difficilement refuser un rapport sexuel parce qu'il se doit, en tant que garçon, pour prouver qu'il est bien viril, d'avoir ce rapport sexuel. Ce soir, désolé, j'ai la migraine. Effectivement, ça serait bizarre pour un garçon de l'entendre. Une fille peut le donner comme argument une première fois, une deuxième fois. Puis au bout d'un moment, le garçon va dire « mais tu comprends pas, moi j'ai besoin, il faut que j'aie... » Enfin, voilà. Donc tout le monde va rentrer finalement et va se les intégrer. Et du coup, va caler sa sexualité sur ces représentations-là. Et du coup, ça va impliquer finalement une certaine relation entre les filles et les garçons qui n'entend pas finalement toutes les variations qu'il peut y avoir autour de ça et qui va enfermer chacun dans des rôles sociaux très distincts.
On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations et le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Enjeu de santé est réalisé en partenariat avec l'ARS et la région Bretagne. Parce que risquer moins, c'est s'éclater plus.